Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait. Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 27 janvier 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Jour le plus meurtrier de 2023, le 10e Palestinien tué en une seule journée par l'armée israélienne. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères condamne l'attaque contre l'ambassade de la République d'Azerbaïdjan à Téhéran. Exemplaire du Saint-Coran profané en Europe, les Iraniens de tout le pays organisent des rassemblements en guise de condamnation. Et puis, des avions israéliens ont effectué de multiples frappes aériennes sur la bande de Gaza sous blocus. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Suite à une attaque armée menée par un homme contre l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran, qui a fait un mort et deux blessés, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné l'attaque. Nasser Kanani a présenté ses condoléances au peuple et au gouvernement azerbaïdjanais, ainsi qu'aux familles et aux proches des victimes. Il a déclaré que l'agresseur est actuellement en garde à vue et qu'il fait l'objet d'une enquête. Le diplomate a conseillé aux médias d'éviter les spéculations et les informations non fondées. Selon le chef de la police de Téhéran, l'agresseur était armé d'un fusil d'assaut Kalachnikov. Le tireur est entré dans l'ambassade alors qu'il marchait aux côtés d'un diplomate azerbaïdjanais et a commencé à tirer. Le diplomate a été tué en conséquence, a fait savoir Hossein Rahimi, chef de la police de Téhéran. Les premiers résultats de l'enquête montrent que des motifs personnels et familiaux étaient à l'origine de l'attaque. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a déclaré que la personne décédée était le chef du service de sécurité de l'ambassade. L'agresseur a déclaré que sa femme est entrée à l'ambassade il y a plus de 10 mois et n'est jamais revenue. Suite à l'attaque, l'Azerbaïdjan a déclaré qu'il évacuerait son ambassade à Téhéran. Sachez également que les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran ont ouvert des enquêtes sur l'attaque contre l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran. Hossein Amir Abdollahian et Ahmad Vahidi, les ministres iraniens des Affaires étrangères de l'Intérieur, ont chargé des groupes d'enquête pour examiner les objectifs et la motivation d'un assaillant armé à l'origine de l'attaque. Sur la base des preuves et des observations préliminaires, l'assaillant a tiré avec un motif tout à fait personnel. Les Iraniens de tout le pays ont organisé des rassemblements contre les récents actes de profanation du Saint-Coran en Europe. Les gens sont descendus dans les rues de la capitale Téhéran et d'autres villes après les prières collectives du vendredi. Ils ont déclaré que cet incident odieux est un acte d'incitation à la haine et à l'islamophobie et une grave provocation au sentiment de plus de 2 milliards de musulmans dans le monde. Les manifestants ont appelé les autorités européennes à mettre fin aux hostilités contre l'islam. Lundi, un politicien extrémiste néerlandais a déchiré un exemplaire du Saint-Coran dans la ville d'Olaé. L'extrémiste anti-islam a partagé sur le réseau social Twitter une vidéo de son acte grâce notamment à la police locale qui lui en a accordé l'autorisation. L'incident survient après que Rasmus Paludan, le leader du parti d'extrême droite danois Estram Kurs, a brûlé un exemplaire du Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, et ce sous escorte policière. De nombreux États musulmans, dont l'Iran, le Pakistan, la Turquie et les Émirats arabes unis, ont condamné cet acte abject de nature à provoquer la haine et les sentiments religieux des musulmans, car il a profondément atteint aux valeurs même de la liberté sur lesquelles reposent les sociétés, y compris les valeurs humanitaires. Un acte contraire aux principes fondamentaux des droits de l'homme et qui sape les efforts visant à diffuser les valeurs de tolérance, de dialogue interreligieux et du vivre ensemble. C'est par ces mots qui ont réagi les autorités des pays musulmans. L'Iran a critiqué l'utilisation par certains pays de la région d'un faux nom pour le Golfe Persique, affirmant que cette décision contrevenait au principe des relations de bon voisinage. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fait cette remarque en réaction à l'utilisation d'un faux nom pour le Golfe Persique par certains responsables irakiens. Il a déclaré que le ministère iranien des Affaires étrangères avait envoyé une note officielle à la partie irakienne qualifiant ce geste d'inacceptable. Le diplomate iranien a souligné que le Golfe Persique est connu sous son nom depuis des milliers d'années dans tous les documents, cartes et récits de voyages anciens. Kanani a ajouté que l'utilisation de mots falsifiés et non fondés ne peut pas changer cette réalité. Il a déclaré que les responsables irakiens ne devraient pas essayer de gagner l'amitié des autres pays au détriment de la solidarité historique entre les pays de la région. Israël représente une menace sérieuse pour la sécurité mondiale. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran et son représentant permanent auprès des Nations unies à Genève, s'exprimant à l'occasion d'une conférence sur le désarmement, a averti que les programmes nucléaires militaires du régime sioniste représentaient une grave menace pour la paix et la sécurité mondiale. S'exprimant à l'occasion de la séance plénière de la conférence du désarmement CD, le diplomate de haut rang iranien Ali Bahreini, tout en brossant un tableau alarmant sur les évolutions liées à la sécurité régionale et internationale, a annoncé que, vu la persistance des armes nucléaires et le risque croissant de la possibilité d'utiliser ces armes de destruction massive, la principale priorité de la communauté internationale devrait être le désarmement nucléaire. L'ambassadeur d'Iran a déclaré qu'autant que ces armes existent, il y a toujours un risque de les utiliser contre l'humanité et il est nécessaire que la conférence sur le désarmement se concentre sur les négociations pour réaliser cet objectif global et vital. Toujours lors de la réunion qui s'est tenue sous la présidence de l'ambassadeur d'Égypte à Genève et où le secrétaire général de la conférence du désarmement était présent, Ali Bahreini a souligné que des décennies d'impasse dans la conférence du désarmement pour négocier un document contraignant pour le désarmement nucléaire résultait du manque de volonté politique des pays détenteurs de ces armes et de leur tentative de maintenir leur arsenal nucléaire. C'est une impasse d'où la communauté internationale doit sortir, a-t-il insisté. Évoquant l'initiative de créer un Moyen-Orient exempt d'armes nucléaires présentée par l'Iran aux Nations unies, l'ambassadeur d'Iran à Genève a souligné que le régime sioniste est le seul obstacle à la formation d'une telle région, et cela avec ses programmes militaires nucléaires en dehors de la supervision internationale. L'actualité régionale avec des avions israéliens qui ont effectué de multiples frappes aériennes sur la bande de Gaza assiégée. Selon les médias palestiniens, les frappes israéliennes ont touché des positions de groupes de résistance et dans différents endroits de la bande de Gaza. Les frappes ont eu lieu quelques heures après que des Palestiniens ont tiré des roquettes sur des positions israéliennes en réponse aux raids sanglants du régime sur le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie occupée. Le porte-parole du mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a salué la réponse palestinienne. Hazim Qassem a déclaré que le peuple palestinien et ses groupes de résistance ont le droit de combattre l'agression israélienne. Il a déclaré que les groupes de résistance à Gaza continueront de défendre les Palestiniens et leurs valeurs sacrées. Direction la France, des manifestants français ont organisé une marche au flambeau dans la capitale parisienne contre une réforme controversée des retraites qui ferait passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. C'est la dernière d'une série de manifestations et de grèves qui ont secoué la France ces dernières semaines. Malgré la mobilisation massive de jeudi dernier, le mécontentement public, le gouvernement français reste inflexible sur l'âge de départ à 64 ans. La réforme des retraites voulue par le président français a été adoptée lundi en Conseil des ministres. Les syndicats prévoient d'intensifier leurs protestations jusqu'à l'abandon du plan de réforme. Une grève est prévue mardi prochain. Enfin, la Russie a rejeté les nouvelles sanctions américaines contre Moscou concernant la guerre en Ukraine, les qualifiant d'absurdes. L'ambassade de Russie aux États-Unis affirme que les entreprises étrangères sont les premières à souffrir des mesures. Selon l'ambassade russe, la capacité de ces entreprises à faire des affaires avec la Russie diminue constamment. Les nouvelles sanctions annoncées jeudi visent des dizaines de personnes et d'entités liées au gouvernement russe. S'agissant des dernières évolutions sur le champ de bataille, l'armée ukrainienne a déclaré que le danger d'attaque aérienne russe restait élevé vendredi. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Le plus meurtrier de 2023, le 10e Palestinien tué en une seule journée par l'armée israélienne. Les forces israéliennes ont tué jeudi Youssef Mouhessen, 22 ans, à Al-Ram, près de Rots, est occupé. 9 autres ont été tués à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie, occupée, plus tôt dans la journée à l'issue d'une attaque israélienne qualifiée de sanglante. Youssef Mouhessen a succombé à ses blessures subies dans les affrontements ayant éclaté jeudi dans la ville d'Al-Ram à Rots, a annoncé le ministère de la Santé de l'autorité autonome palestinienne basée en Cisjordanie. La mort du jeune homme a fait de jeudi la journée la plus meurtrière de l'année en cours pour les Palestiniens. Les 9 autres ont été tués plus tôt dans la journée après que des dizaines de véhicules blindés israéliens aient encerclé la ville de Jenin et le camp de réfugiés voisins. Tout au long du raid meurtrier, des tireurs d'élite israéliens se sont également positionnés sur les toits des maisons et des troupes lourdement armées et ont commencé à ouvrir le feu sur les jeunes Palestiniens qui tentaient de bloquer le passage des forces israéliennes. Plus tard dans la journée, des milliers de personnes endeuillées ont envahi les rues de Jenin, portant les cercueils des Palestiniens tués et scandant des slogans contre le régime israélien. Jeudi également, l'autorité autonome palestinienne, basée à Ramallah, a déclaré qu'elle suspendait la coordination en matière de sécurité avec Israël en réponse au massacre de Jenin. À la lumière des agressions répétitives contre notre peuple et de la remise en cause des accords signés, y compris ceux portant sur la sécurité, nous considérons donc que la coordination sécuritaire avec l'occupation israélienne n'existe plus à l'heure actuelle, lit-on dans un communiqué publié après une réunion de l'autorité autonome palestinienne. Des rassemblements massifs ont également été organisés dans la bande de Gaza où les mouvements de résistance palestiniens ont promis de venger les morts. Le chef adjoint du bureau politique du Hamas, Saleh al-Aroudi, a sévèrement condamné le massacre israélien perpétré contre des civils palestiniens en promettant qu'Israël paiera en conséquence un lourd prix. L'occupation paiera le prix du massacre qu'elle a perpétré à Jenin et dans son camp ce matin, et la réponse de la résistance ne tardera pas à assurer al-Aroudi dans un communiqué. De son côté, le mouvement du djihad islamique de la Palestine a confirmé jeudi que Jenin, ses camps, ses bataillons et ses combattants sont l'incarnation de la volonté nationale à travers la Palestine et dans la diaspora. Le secrétaire général du mouvement du djihad islamique de la Palestine, Ziad Nahala, a déclaré « Cette agression contre le peuple palestinien à Jenin et dans la Cisjordanie n'arrêtera pas la résistance. Et les braves combattants de notre peuple resteront sur le terrain dans un état de confrontation continue avec l'ennemi. Nous ne serons pas brisés et nous ne reculerons pas en dépit de la douleur. Nos armes sont prêtes à combattre et à défendre le peuple palestinien et ses objectifs qui sont sacrés », a conclu al-Aroui. Peu importe l'ampleur des sacrifices et peu importe à quel point les Israéliens seront agressifs, jusqu'où ils iront pour terrifier les Palestiniens, la vérité prévaudra pour sûr, a déclaré Davoud Shahab, un haut responsable du djihad islamique de la Palestine, dans un communiqué de presse.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors la France est devenue le théâtre de la grève contre la réforme des retraites et la rue s'efforce de faire céder le gouvernement face aux cris des manifestants. Alors le cortège emmené par les jeunes et bien sûr, par brassant toutes les générations, ces jeunes qui crient leur colère contre le gouvernement, craignent une forte diminution d'emplois et ils seront une génération sacrifiée, bien sûr. Alors, nous parlerons également dans cette émission, Le Débat, de la réaction des chefs des partis politiques en France. Et certains pensent même que cette loi ne fera pas travailler une seule personne et fera plus de chômeurs. Nous allons donc parler de cela avec des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Résistance, on est là, même si Macron ne le veut pas. Tandis que le projet de loi prévoyant notamment le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans doit être présenté lundi en Conseil des ministres. Au moins 14 000 personnes ont manifesté à Paris samedi 21 janvier, selon un comptage du cabinet Occurrence pour un collectif de médias dont Le Monde. Selon une source policière, les manifestants étaient environ 12 000, quand les organisateurs estimaient, eux, le nombre de participants à 150 000. Le cortège, emmené par les jeunes mais brassant toutes les générations, a cheminé entre la place de la Bastille et de la Nation. Les jeunes craignent une diminution du nombre d'emplois, a expliqué Noémie Stikan, représentante de la Fédération indépendante et démocratique lycéenne. Plus largement, ils veulent dire stop à cette mesure antisociale du report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. On est révoltés, on a envie d'en découdre, on a envie de dire qu'on ne sera pas la génération sacrifiée, acclamée Zoé Loriot-Chevalier, membre de Génération S, avant le départ du cortège. Le cortège s'était lancé de la place de la Bastille à 14h15. Les forces de l'ordre avaient alors procédé à 1700 contrôles et interpellé 3 personnes pour port d'armes prohibées, a annoncé la préfecture de police de Paris. Le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a fait part de son exaspération à l'égard d'Emmanuel Macron. « Soyez maudits de vouloir transformer toute notre existence en marchandise. Tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier », a-t-il déclaré lors d'une harangue à la foule. Selon l'ex-candidat à la présidentielle, le recul de l'âge légal de départ à la retraite ne fera pas travailler une seule personne. Ce sera des chômeurs de plus, des malades de plus et surtout de la vie en moins, a-t-il plaidé. La clé de l'avenir, ce n'est pas produire plus du jetable, mais de produire mieux. Et pour le faire, il faut travailler moins, a-t-il encore fait valoir.
Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau des experts de questions internationales. Commençons par Aïssar Midani, experte franco-syrienne depuis Paris. Madame Midani, bonjour.
Bonjour. Bonjour à toute l'équipe Presse TV et merci pour votre invitation.
C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un grand bonjour à Maître André Chamy, juriste international qui est avec nous depuis l'Alsace. Monsieur Chamy, bonjour.
Bonjour à toute l'équipe et bonjour à Madame Bigani.
Voilà un débat qui s'annonce prometteur. Ma première question va s'adresser à Madame Midani. Alors, les Français sont en colère contre cette loi de réforme des retraites. Pourquoi, à votre avis?
En fait, cette réforme des retraites, ça fait un certain temps que les présidents, d'ailleurs aussi bien Hollande, Sarkozy et Macron actuellement, ils la mettent sur le tapis, prétextant du fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui cotisent à la retraite, donc pour avoir une retraite pour tout le monde, pour tous ceux qui il faut travailler plus, et puis pour gagner plus, c'était le mot d'ordre de Sarkozy déjà. Alors qu'en fait, les gens ont vu par expérience que ça voulait dire travailler plus, gagner moins et avoir encore moins de sécurité. De sécurité, c'est-à-dire au niveau de la retraite, même ceux qui ont la retraite, elle est diminuée et elle est à chaque fois pas suffisante pour vivre. Donc la colère aujourd'hui, elle est tout à fait légitime puisqu'il y a non seulement augmentation de l'âge de la retraite, mais aussi des annuités, c'est-à-dire le nombre de trimestres auxquels il faut cotiser pour arriver à la retraite. Là-dessus, on ne fait absolument pas état, des licenciements dus à la fermeture d'usines liées au Covid déjà, et puis maintenant liées à l'augmentation du prix de l'énergie, qui est pour les usines et pour l'industrie. Ça pousse pratiquement les industries à licencier du monde et à diminuer le nombre de travailleurs. Ce qui veut dire, en fait, que non seulement il y a 2 années de plus à la retraite, mais c'est que ceux qui vont arriver à la retraite sont très peu nombreux, puisqu'il y a actuellement, avec aussi la guerre contre la Russie et pour soutenir l'Ukraine, il y a de plus en plus d'argent qui est dépensé, il y a de plus en plus d'augmentation du prix de l'énergie. Je voudrais quand même rappeler que hier il y a 3 centrales électriques qui ont cessé de produire, nucléaires pour la production d'électricité en France, qui ont cessé de produire. Et puis donc tout ça fait un ras-le-bol général que Macron n'a pas entendu et ne veut pas entendre, d'ailleurs qu'il était, c'était tout à fait révoltant qu'il ne soit pas en France à ces moments importants, qu'il était en Espagne, justement pour signer un certain nombre d'accords autour de cette même question, que l'augmentation il prétend depuis des années qu'il n'y a pas d'argent, mais en fait, il a bien trouvé l'argent pour la répression du mouvement des Gilets jaunes pour, en achetant des armes nouvelles, en fait, pour les manifestations. Mais aussi, là, il trouve bien l'argent pour soutenir les nazis d'Ukraine dans leur guerre contre la Russie. Mais aussi, sans parler des 400 milliards d'euros qu'il a décrété, en fait, a ajouté à la, au budget, pardon, 400 millions d'euros à ajouter au budget de la défense sur les 7 ans à venir pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine. Donc, tout ceci, c'est. Les gens le voient, les différentes couches de la population le voient, et puis donc ça les révolte, et c'est une révolte tout à fait légitime, je dirais.
Bien. Maître André Chamy, alors Madame Midani nous a cité un certain nombre de raisons, de ras-le-bol des Français. Donc est-ce qu'on peut dire que cette loi sur la réforme des retraites ne peut être qu'un prétexte pour les Français pour exprimer leur colère à l'égard d'autres choses contre donc, le gouvernement?
Il est incontestable que nous sommes face à un problème démocratique quand dans la question posée par la loi, puisque au départ, on dit, en tout cas le prétexte du gouvernement, que Macron a été élu sur son programme et dans son programme, il était prévu la réforme des retraites. Or, ils oublient tous qu'il n'a pas été élu sur son programme, il a été élu par opposition à l'élection de Marine Le Pen. Et si l'on devait prendre uniquement la quotité, si je veux dire, dont a bénéficié Macron, ça ne représenterait même pas 15% du corps électoral, puisqu'il a recueilli en gros une vingtaine de pourcents, mais ça ne correspondait pas au corps électoral, ça correspondait aux votants. Et quand on répertorie ça par rapport au nombre d'électeurs, évidemment, ça ne représente même pas 15%. Or, s'attribuer une légitimité alors qu'on n'a pas une majorité réelle, c'est d'abord de la fausse démocratie. La deuxième difficulté, c'est que même au deuxième tour, il n'a pas été choisi. Lui, il a été choisi par dépit, c'est-à-dire il y a des partis de gauche, même ce qu'on appelle l'extrême gauche, c'est-à-dire Mélenchon, les Insoumis, les Écolos, etc., qui sont opposés à tout son projet politique, à toute sa politique, ils ont dû voter pour lui, non pas par adhésion, mais tout simplement par opposition. Ce qui démontre que les choses ne sont pas aussi claires que cela, y compris dans le camp de la majorité présidentielle, laquelle reste toujours relative, raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle le passage en force grâce au 49.3, c'est-à-dire un article qui permet de passer les textes en force au mépris de la majorité non acquise au sein du Parlement. Le troisième problème, à mon sens, qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il y a un malaise qui dure depuis des années, même depuis le premier mandat Macron, et c'est ce qui explique à l'époque le mouvement des Gilets jaunes, mais qui continue de fomenter, qui continue d'exister au sein de la population, mais laquelle a été réduite entre guillemets au silence en raison de la situation économique, et avant c'était en raison de la situation sanitaire. Puisque quand vous êtes confiné, vous ne pouvez pas manifester. Puis ensuite, il y a la situation économique qui est délicate. Et à ce moment-là, vous préférez ou privilégiez de continuer de bosser au lieu de reprendre le mouvement social. Maintenant, le révélateur de ce malaise social, c'est effectivement la loi sur la retraite. La loi sur la retraite est tellement, je dirais, injuste qu'elle vise directement les personnes qui vont dépasser l'âge de 60 ans. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a un taux de non-employabilité en France pour les personnes ayant plus de 60 ans. C'est la raison pour laquelle le gouvernement veut inciter à l'emploi des seniors.
Or, l'emploi des seniors pose des difficultés parce que les employeurs n'embauchent pas les seniors. C'est-à-dire, vous allez les priver, en quelque sorte, de leur cotisation entre l'âge de 60 ans et 64 ans, ce qui aboutira directement à la base de leur retraite. Et c'est ça que se trouve le problème. Les gens ne sont pas opposés à l'idée de travailler, mais ils savent qu'ils ne pourront pas travailler au-delà de certain âge, ou en tout cas, ils n'auront pas la santé de travailler au-delà de certain âge, et c'est la raison pour laquelle ils seront privés de ces cotisations sur la partie qui est considérée la partie la plus onéreuse, c'est-à-dire qui rapporterait plus de cotisations, mais à partir du moment où vous êtes privé de 4 ans ou de 5 ans de cotisation, ben vous aurez nécessairement une retraite moindre, et c'est ce qui vous mettrait dans une situation précaire à l'âge où vous devriez bénéficier de votre retraite. Et nous sommes donc dans cette situation-là qui prévoit déjà la précarité, ou en tout cas qui l'envisage et qui l'intègre dans le calcul. Or, il y a d'autres sources de revenus qui pourraient permettre d'alimenter les caisses de retraite. D'ailleurs, la France s'est privée de cette source en privatisant, par exemple, les autoroutes. Or, les autoroutes, à l'origine, devaient financer les caisses de retraite. Et aujourd'hui, ces caisses ne contribuent plus aux caisses de retraite. Et par conséquent, évidemment, il va y avoir un vide. Or, les Français sont révoltés. Ils le font savoir et aujourd'hui la tension est très forte et ça pourrait même aboutir, rien ne l'interdit si j'ose dire, ça pourrait même aboutir à une révolte généralisée puisqu'on a constaté une participation très importante au-delà même des prévisions des syndicats et des partis politiques parce que les syndicats prévoyaient 1 million, le chiffre a dépassé les 1 200 000, y compris selon les chiffres de la police. Alors que selon les syndicats, nous avons atteint pratiquement les 2 millions de manifestants. C'est-à-dire que c'est quelque chose de colossal que la France n'a pas connu depuis très 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 longtemps.
Absolument. Alors, par vos explications, on a très bien compris, vous et celle de Mme Midani, les raisons pour lesquelles les Français sont en colère. Je m'adresse à vous, Mme Midani, maintenant. Alors, la rue essaye de faire céder donc, le gouvernement. Est-ce que, comme a dit Maître Chamy, est-ce que cela ça va se développer et donc dans les jours à venir et peut-être les semaines à venir, on aura une mobilisation générale, à votre avis?
En fait, il y a eu déjà une mobilisation des étudiants où 150 000 manifestants ont rejoint aussi les cortèges. Donc, ça touche toutes les tranches de la société, ça d'une part. D'autre part, il y a eu une reconduction de cette grève un autre jour qui a été décidée. Donc, c'est le 31 janvier. Donc c'est un mouvement qui est fait pour durer et qui n'est pas fait pour faire juste un coup d'éclat un seul jour, ça d'une part, mais d'autre part je crois que la majorité des gens veulent non seulement manifester mais ils veulent aussi des résultats et jusqu'à présent Macron montre une attitude qui est complètement pas seulement réticente, mais complètement rigide vis-à-vis de cette réforme. C'est-à-dire, il veut pas entendre. Il a une position complètement autiste vis-à-vis du mouvement et vis-à-vis de tout le peuple, ce qui ne lui vaut pas. Enfin, ça ne va pas pour améliorer ses cartes auprès de la population, d'une part. Et puis d'autre part, bon, bah, la situation se durcit et donc elle peut aller vers une confrontation plus violente.
Madame Midani, est-ce que vous êtes d'accord avec Maître Chamy quand il a parlé que Emmanuel Macron ne représentait pas tous les Français, et surtout la majorité des Français, à cause donc du second tour avec Marine Le Pen? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Tout à fait.
D'où la colère des Français.
Il a été vraiment, oui. Absolument. Et ça a été une véritable manigance, en fait, pour sa réélection. C'est un jeu de théâtre presque qui a été où ils ont mis des personnes encore plus à droite comme Zemmour, comme Le Pen, etc. Et puis la soi-disant gauche a appelé à voter Macron, ce qui est complètement hallucinant. Et puis ça d'une part. Et puis d'autre part, il faut quand même savoir que Macron n'a jamais défendu un programme. Et il a toujours dit je suis là pour mettre en application le programme que je défends, mais il n'a jamais explicité son programme. Rien du tout. Alors là, il parle de, il dit que ça, il en a parlé et qu'il a été élu sur cette base-là. C'est archi faux. C'est complètement faux. Et tout ça, ce sont des choses, des manigances médiatiques pour noyer le poisson et faire croire hein, des choses qui n'ont pas été et qui sont complètement fausses. Donc aujourd'hui, effectivement, en France, la polarisation ou la bipolarisation est assez importante et violente. Il faut savoir jusqu'à maintenant, on ne sait pas quel est le taux des partisans de cette réforme, parce que il dit qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec cette réforme, etc. Et il n'y a absolument aucune possibilité de comptage ou de connaissance de qui est pour. On voit déjà qu'il y a des millions de personnes qui sont contre et que ça, ce sont ceux qui ont pu manifester. Mais il y a énormément de gens qui ne sont pas allés en manifestation et qui n'ont pas laissé leur poste de travail aussi et qui sont complètement pour les revendications, c'est-à-dire contre cette réforme. Absolument. Il y a même des hauts fonctionnaires qui sont complètement contre cette réforme. Donc, c'est très important à voir.
Tout à fait. Maître Chami, est-ce qu'on peut parler, comme vous l'avez fait tout à l'heure, d'une mobilisation générale ou cette mobilisation est pour le futur?
Le risque existe. D'ailleurs, les renseignements généraux en France, enfin ce qu'on appelait dans le temps les renseignements généraux, mais en tout cas les renseignements des services de police, prédisent une mobilisation qui pourrait s'accentuer et qui pourrait même faire trébucher, si je veux dire, Macron et son gouvernement et aboutir même à quelque chose de beaucoup plus important. Pour l'instant, c'est, si j'ose dire, c'est dans les tuyaux, comme on le dit dans notre jargon, mais rien ne l'exclut. Et aujourd'hui, il y a une véritable crainte, parce que ce sont des rapports qui remontent des services des préfectures de tous les départements et qui démontrent qu'il y a une colère qui gronde et cette colère risquerait de se transformer en mouvement populaire généralisé avec des conséquences particulièrement importantes sur la sécurité. En tout cas, ce n'est pas, je ne suis pas en train d'exprimer un souhait personnel, mais je dis les infos qui circulent et qui sont remontées au ministère de l'Intérieur et qui sont remontées directement à l'Élysée. Maintenant, il faut voir la réaction du gouvernement. Est-ce que, comme d'habitude, ils vont jouer l'épuisement du mouvement, en tout cas croire qu'au bout de quelques semaines, ça va se calmer, et à partir de là, bah, ils feront passer leur projet de loi, en s'appuyant sur la droite, ou bien il y aura une reculade, et puis on verra à ce moment-là par quoi ils vont remplacer ce texte.
Maître Chami, Maître Chami, force est de constater tout de même que le gouvernement ne fait rien pour répondre aux exigences des manifestants. C'est pour ça que les manifestations s'accentuent, n'est-ce pas?
Ben, de toute façon, c'est une constante dans l'action de ce gouvernement. Moi, j'ai contribué activement, si je veux dire, au mouvement des soignants qui ont été martyrisés par le gouvernement, qui ont été exclus du service, alors que les hôpitaux et les cliniques et tous les services de santé en avaient besoin et ils se sont trouvés à la rue de manière assez abjecte. Et à l'époque, et ça continue d'ailleurs, le gouvernement joue l'épuisement, c'est-à-dire ils disent « ça durera ce que ça durera, ils finiront par lâcher la rue ». Est-ce que c'est un pari raisonnable du gouvernement par rapport à ce mouvement en particulier, en tout cas le mouvement concernant la loi sur la retraite, mais encore une fois, ce n'est qu'une face du mouvement général, que la cherté de la vie, la situation économique, la précarité qui se généralise, c'est tout cela qui vient s'additionner à la question de la retraite. C'est-à-dire, quand on voit les slogans dans les manifestations, il n'y a pas que la question de la retraite, il y a d'autres questions, et bien entendu, avec les dépenses fastueuses du gouvernement et du président. Évidemment, quand on voit les vacances, les départs, les repas, etc., tout cela questionne la classe populaire. Ils disent pourquoi c'est toujours nous qui devons payer, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent payer, en l'occurrence les plus riches, les plus...
Oui, malheureusement, notre liaison est coupée. Madame Midani, est-ce que vous voulez bien réagir? J'ai vu tout à l'heure que Maître Chami parlait, vous confirmiez ce qu'il disait.
Ah, tout à fait, absolument. Et donc, non seulement non seulement Macron a été réélu avec une toute petite minorité, je dirais, par rapport à la population, mais aussi le fait que la seule réponse qu'il a à faire, c'est d'abord causer toujours « ça ne m'intéresse pas », d'une part, et puis d'autre part, par la répression et par des pertes d'emplois. Je voudrais dire quand même que c'est quelque chose d'important. Et là, je rectifie ce que j'avais dit par rapport au budget qu'il voulait augmenter aussi pour aider l'Ukraine face à la Russie. C'est bien 400 milliards sur les 7 ans à venir. Donc, en fait, quand ils veulent bien, et sous le diktat américain quand même, ils continuent ils cherchent à trouver et ils trouvent l'argent. Mais quand il s'agit de servir la population et puis de garder effectivement certains avantages acquis par des luttes importantes à travers l'histoire et pour l'avantage des travailleurs et des gens qui ont construit la France, et bien là, il ne trouve pas un mot à dire à part « ça continuera comme ça, c'est comme ça et c'est pas autrement » et par la répression. Voilà. Donc c'est sûr que ça va lui jouer des tours importants. Moi, je suis un peu dubitative que la question de l'Ukraine aussi n'ait pas été évoquée par le mouvement, parce qu'on ne fait pas le lien entre la dégradation de la situation de vie en France et toute cette aide, entre guillemets, sous l'impératif américain, à l'Ukraine qui n'a rien de juste dans sa guerre.
Absolument.
Et qui est une guerre d'agression contre la Russie, ajouté au fait que les diktats américains qui exigent en fait de couper les relations économiques avec la Russie, avec l'Iran, etc., c'est en fait représente un suicide économique de la France et de l'ensemble des pays européens, et personne ne fait ce lien. Mais je pense que là, de plus en plus, on voit dans toutes les capitales européennes, à Berlin, en Angleterre et partout, où il y a dans le mouvement justement de protestation un lien total entre le fait de la guerre et le fait de la dégradation des conditions de vie de la population. Or là, il est important et ça va venir. Enfin, ça vient. En France, il y en a qui le disent, mais ça n'a pas été repris par le mouvement syndical, qui, à mon avis, est aussi un petit peu, réticent à poser cette question et qui est de connivence, je dirais, avec l'État sur cette question. Il y a le fait, c'est quand même flagrant quand on n'a pas d'argent et on dit on n'a pas d'argent pour la retraite et
tout
puis on va augmenter le budget de défense de 400 milliards alors que le budget actuel est de 40 milliards, et on va l'augmenter de 400 milliards sur les 7 années à venir. Pour le soutien de l'Ukraine.
Absolument, alors, peu de promesses.
Ça paraît complètement choquant. Et ce qui est encore plus choquant, que les leaders du mouvement ne font pas le lien entre les deux.
Aïssa Armidani, experte franco-syrienne, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à Maître André Chamy qui nous a accompagnés depuis l'Alsace. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Parole d'experts.
Vous savez que les ennemis de l'Iran, à leur tête les États-Unis, n'ont jamais cessé de saboter toute action du peuple iranien à l'indépendance économique, politique, culturelle depuis à peu près 4 décennies. Ils ont tout essayé, ils ont essayé la guerre, ils ont essayé les sanctions, l'embargo, Ils ont essayé de déstabiliser à plusieurs fois à l'intérieur même de l'Iran, mais aussi autour des frontières iraniennes, en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Ces actions des Américains ou des Européens à vouloir déstabiliser à l'intérieur même l'Iran a bien échoué, mais ils insistent car aujourd'hui la position iranienne, c'est une position forte, la puissance iranienne qui ne cesse de monter, que ce soit au niveau géopolitique, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau scientifique. Et donc l'Occident cherche à diminuer cette force et cherche à empêcher le poids stratégique de l'Iran dans la région à avoir de l'influence dans ce qui se passe comme, si vous voulez, opposition entre l'Occident et la Chine de côté et entre l'Occident et la Russie de l'autre côté. Donc c'est très difficile de penser que les Américains ou les Européens vont vouloir changer de régime parce qu'eux-mêmes savent qu'aujourd'hui c'est une question impossible parce que le peuple iranien c'est le régime et le régime c'est le peuple iranien. Par contre, ils cherchent à affaiblir la position iranienne en géopolitique dans la région et affaiblir l'économie iranienne pour pouvoir changer les positions iraniennes vis-à-vis de certains dossiers dans la région et dans le monde. Je ne pense pas qu'ils sont déconnectés parce que, bon, ils ont leurs agents de renseignement. On a vu récemment donc, que la République islamique d'Iran, le gouvernement, il a arrêté certaines personnes. Il a même exécuté un agent de service britannique. Donc, ils ont tous les rapports réels. Par contre, ils essaient tout le temps d'opérer par leur influence médiatique. On voit très très bien, c'est une guerre d'information, c'est une guerre des réseaux sociaux, c'est une guerre de désinformation que mène l'Occident depuis maintenant 4 mois. Et à chaque fois, c'est les mêmes thèmes. Hein. À chaque fois, c'est le droit de l'homme, c'est le droit de la femme, que ce soit en Iran ou que ce soit ailleurs. Donc l'argument que l'Occident défend le droit de l'homme, le droit de la femme, ça c'est un argument, même tous les peuples, que ce soit en Iran ou ailleurs, savent que les Occidentaux ne cherchent pas à défendre le droit de l'homme, au contraire, ils cherchent à défendre leurs intérêts. Donc ils savent très très bien de quoi il s'agit, mais par contre, ils n'ont pas compris comment fonctionne le régime iranien. C'est ça qu'ils n'ont pas compris en fait. Ils n'ont pas compris comment les prises de décision, qui prend les décisions dans le système politique iranien. Donc c'est ça qui les embête depuis 4 décennies à peu près. Parce qu'ils ont eu l'habitude dans certains pays où la décision du régime elle est représentée par 2, 3, 4 personnes. Donc le fait de pouvoir influencer ces personnes, ils peuvent influencer la politique de l'État. Et là, ils n'arrivent pas donc, à avoir leur influence directe sur les positions de l'Iran à l'intérieur même ou à l'extérieur dans la région. Et donc, ils essayent la déstabilisation du régime politique pour avoir plus d'influence, en fait. Oui, vous savez, le corps des gardiens de la révolution, c'est un corps officiel, donc il fait partie de l'État iranien, du gouvernement iranien, ce n'est pas une milice hors la loi, à l'intérieur d'Iran ou même à l'extérieur de l'Iran. Donc c'est un corps qui appartient au gouvernement iranien, qui représente le gouvernement iranien, pas simplement côté militaire, mais côté social, côté culturel. Demander que ce corps de gardien des révolutions iraniennes soit nommé comme un groupe terroriste, ça par contre c'est de l'aveuglement parce que ces députés européens ou bien ils ne connaissent pas le régime iranien, ils ne connaissent pas la situation en Iran ou bien vraiment c'est une position idéologique et ce n'est pas une position politique logique. C'est pour cette raison même le représentant de l'Europe il a bien dit que bon, c'était pas dirigé contre le gardien de la révolution, par contre c'est une position émotionnelle soi-disant pour soutenir les défenseurs des droits de l'homme à l'intérieur même de l'Iran et l'opposition iranienne. Donc, c'est une, si vous voulez, c'est une, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une manière, encore une fois, de faire pression sur l'entité la plus populaire en Iran, c'est-à-dire les gardiens de la révolution. Donc, ils essaient de faire pression sur ce corps pour qu'il travaille pas main à main avec le gouvernement et avec le peuple iranien. Donc, c'est une, c'est une manœuvre de diviser pour mieux régner, en fait, diviser les entités iraniennes de l'intérieur de l'Iran pour mieux influencer les décisions. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce que l'Europe fait aujourd'hui, c'est influencer les décideurs iraniens sur des sujets importants dans la région et dans le monde. Parce que l'Iran prend plus de positionnement en faveur de l'indépendance des peuples de la région et en faveur de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis. Et on voit que la position iranienne, elle est plutôt pro-chinoise, pro-russe que pro-Occident aujourd'hui dans l'affrontement, qu'on le voit, que ce soit dans le Pacifique ou bien en Europe, dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine.